C'est avec tristesse que nous avons appris très tôt ce matin le décès de Guy Aymon. Tigui Aymon, journaliste, beaucoup plus qu'un journaliste d'ailleurs, un personnage extrêmement coloré, ancien chroniqueur sportif, commentateur. Et nous allons recevoir, Jérémy, son fils, Jean-Marc Aymon, qui, en dépit de sa douleur, nous a dit qu'il voulait être en studio pour parler de son père à 16h10.
Excellent, oui, je connais très bien Jean-Marc, je connais très bien la famille Aymon. En fait, la dernière fois que j'ai vu Tigui, c'était l'été dernier, lorsque je suis allé au salon funéraire lors du décès de son frère. Malheureusement, Guy, à ce moment-là, déjà était en fauteuil roulant et ne parlait plus. Et ça m'a beaucoup choqué, étant donné que Tigui adorait parler. C'était un raconteur d'histoire. Nous étions des collègues à la radio il y a de cela une vingtaine d'années. J'étais un jeune journaliste. Et ce que je me souviens de Tigui au tout début et ce que je savais de lui, c'est que c'était le monsieur qui rugeait dans mon temps d'antenne, parce que lui, son segment était juste avant le mien, Paul. Alors, tu comprends qu'on avait de la difficulté à l'arrêter. Et donc, mon segment qui devait durer 7-8 minutes, souvent en durait seulement 3 ou 4, parce que Tigui avait tellement de choses à raconter. Mais ensuite de ça, nous sommes devenus de très bons amis. En fait, nous avons fait du covoiturage du stade olympique jusqu'à la maison après les matchs des expos pendant à peu près 6 saisons, on a fait cela. Donc, on est devenus de très bons amis. On avait en commun plusieurs sujets, dont les sports, la boxe, le baseball, les expos, le Canadien. Lui aimait aussi beaucoup les courses à chevaux et les paris sportifs. Donc, nous partagions cette passion-là aussi. Donc, on s'est vraiment liés d'amitié et c'est vraiment avec tristesse que j'apprends cette nouvelle-là aujourd'hui. Écoute, je pourrais vous raconter des histoires jusqu'à demain matin, dont celle-là où il avait assommé Tommy Lasorda en sortant du taxi là, à l'hippodrome de Montréal. Il l'a raconté à plusieurs reprises. Là, il amenait Tommy Lasorda au Blue Bonnet voir des courses à chevaux et là, ben Tommy a décidé de sortir du même côté du taxi que lui. Et Tigui s'en était pas rendu compte et finalement il l'avait littéralement assommé avec la porte du taxi. En tout cas, des histoires assez rocambolesques dont je voulais lui lancer un dernier tour de chapeau et bien sûr saluer et envoyer mes plus sincères sympathies à sa famille, ses fils surtout.
Oui, nos plus sincères sympathies, j'aurai l'occasion de les transmettre à son fils à 16h10. J'ai été étonné ce matin d'apprendre dans ce dossier de Radio-Canada qu'on ne songerait pas à remplacer la toile du stade olympique avant 2024.
Ouais, très bon travail du collègue Romain Chué. Maintenant, écoute, Paul, je ne sais plus quoi dire concernant cette toile qui s'est déchirée originalement, on s'en souvient, en 1999. Donc, en 2024, ça va faire 25 ans que ce toit-là n'est plus fonctionnel. Et dans l'article, on explique quand même très bien que les déchirures se multiplient de façon exponentielle à chaque année. Pour moi, Paul, ça devient un danger. C'est la toile du stade olympique et je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'on a encore à réfléchir alors que ça va faire, comme j'ai dit, 25 ans. C'est complètement inacceptable. Maintenant,
oui,
la bonne nouvelle,
Jérémy,
c'est que...
Jérémy, j'ai une réponse pour toi. Ce ne sera pas une dépense populaire. Le gouvernement, chaque gouvernement, que ce soit le gouvernement péquiste, le gouvernement libéral, le nouveau gouvernement caquiste, c'est une patate chaude parce qu'on sait que ça va coûter des centaines de millions de dollars et il va falloir faire passer la pilule aux contribuables.
Sauf qu'on sait, Paul, que ça devient un problème de sécurité maintenant, parce que cette toile-là, elle n'est plus sécuritaire. Il faut prendre une décision avant que quelque chose arrive. Donc, c'est pas populaire, mais il faut le faire, malheureusement. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que on devait normalement procéder au remplacement de la toile en 2022. Maintenant, ça va donner plus de temps à ceux qui tentent de ramener les expos à Montréal, parce que si jamais les Rays devaient déménager ici et utiliser le stade olympique pendant quelques saisons, ben, ils auraient jusqu'en 2024 pour potentiellement construire le nouveau stade, alors que dans l'ancien plan, ça commençait à devenir serré. Paul, 2021, on est à 2 ans de là, donc il aurait fallu que la transition se fasse rapidement, donc il y a quand même une nouvelle positive là-dedans. Là.
Alors, les Prédateurs ont démontré à Marc Bergevin qu'il était possible de céder des choix au repêchage et d'aller chercher des bons joueurs, parce que les Prédateurs ont acquis aujourd'hui Brian Boyle des Devils et Cody McLeod des Rangers.
Oui, en retour d'un deuxième et d'un septième choix au repêchage respectivement pour les deux équipes. Maintenant, ça place un peu, ça met un peu la table parce que si Brian Boyle, ça coûte un deuxième choix au repêchage, ben qu'est-ce qu'il faut payer pour Mark Stone? Qu'est-ce qu'il faut payer pour Wayne Simmons? Donc, mais au moins là, on a une première ligne directrice, à savoir combien ça vaut un joueur autonome sur le marché des transactions à cette date limite des transactions. Ça ne veut pas dire que cette tendance-là va se maintenir, mais au moins on a un point de discussion entre les directeurs généraux lorsqu'on on va débattre et on va parler de certains joueurs, donc les Prédateurs qui font qui commencent déjà à s'équiper là pour les séries éliminatoires.
Alors c'est drôle parce que avant d'entrer en onde hier ou avant-hier, toi et moi, on disait la carte de boxe à court terme là s'annonce très tranquille, mais il y aura un programme double de boxe le 16 mars prochain au Casino de Montréal.
Écoute, Paul, moi, ça fait 20 ans que je couvre la boxe. Je n'ai jamais vu ça. Alors, Eye of the Tiger, vraiment, là, va tenter un coup qu'on n'a jamais vu dans le passé. Deux galas dans le même jour, au même endroit. Il va en avoir un sur le coup de midi, où il y aura 8 combats, et un autre en fin de soirée, à 19h30, où il y aura 8 autres combats. Donc, au total, 16 combats à couvrir. Et donc, il y aura une pause de 3h30 entre les deux galas. Donc, amplement le temps d'aller dépenser un petit mille au blackjack ou même au restaurant, là. Mais ça va faire une journée assez longue, merci, pour les amateurs, pour les journalistes et tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est une solution idéale. Dans le gala de fin de soirée, eh bien, ce sera le grand retour de Simon Keane qui va se battre pour la première fois depuis sa première défaite. Là, il va affronter un certain Rogério Omar Rossi, un Argentin. Et par ailleurs, puisqu'on parle de Eye of the Tiger Management, eh bien, on apprend aujourd'hui qu'il n'est pas impossible que David Lemieux obtienne une chance de se battre pour un titre de championnat du monde dès son premier combat chez les 160 livres. Il affronterait John Ryder, mais tout ça n'est pas confirmé. Ce serait sur la carte de Canelo Alvarez là, qui aura lieu le week-end du Cinco de Mayo à Las Vegas. En fait, ce titre-là, c'est un titre que laisserait de côté Canelo Alvarez, lui qui avait battu Rocky Fielding dans son dernier combat, mais c'est un titre auquel il ne tient pas beaucoup, donc il deviendrait vacant et potentiellement disponible pour David Lemieux.
Je viens d'apprendre notre recherchiste François Arnois qui m'apporte cette nouvelle, une autre triste nouvelle, et nous allons terminer là-dessus. L'ex-joueur du Canadien de Montréal, André Boudria, est décédé à l'âge de 75 ans. Ça vient d'être confirmé par l'organisation du Canadien. Boudria habitait près de Laval. Il se trouvait à Whistler, en Colombie-Britannique, pour un voyage de ski. Les informations ont été transmises par Régent Houle, le président de l'Association des anciens Canadiens de 83 à 95. Selon de nombreuses sources médiatiques, il serait décédé d'un infarctus. André Boudria, qui a été aussi adjoint du directeur général du Canadien pendant 12 saisons avec Serge Savard.
Exactement, tu viens de le mentionner, donc il a passé plusieurs années aussi dans les bureaux du Canadien de Montréal, donc j'ai l'impression que demain soir, avant le match contre les Jets, là, on va rendre hommage à ces deux personnages qui ont marqué l'histoire du Canadien, il faut le mentionner là, à leur façon.
Merci Jérémy, à demain.
Merci Paul,
bye. Au revoir.